Aujourd'hui, on va faire quelque chose de un peu différent. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas tout à fait mon habitude. Aujourd'hui, on va voir un ensemble de passages dans la parole. Souvent, je me concentre sur un seul passage et puis le message, il vient de ce passage. Mais aujourd'hui, on va voir plusieurs, quatre notamment. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi. Mais avant d'entrer là-dedans, j'aimerais commencer par ces quelques mots d'introduction. Vous savez que cette semaine a commencé à Rio, au Brésil, les Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Et il y a des Français là-bas, la France est représentée, et il paraît même qu'il y a des Vernonnais. En kayak, en handball et un autre sport, j'oublie, je ne sais pas si c'est karaté ou judo, mais il y a trois Vernonnais qui sont à Rio, qui représentent généralement la France, mais spécifiquement notre petite ville. Et quelque part, pourquoi pas, on peut être fier de cela. Mais quand on pense aux Jeux Olympiques, on pense au plus haut niveau, n'est-ce pas? Là, qu'est-ce qui est plus grand que les Jeux Olympiques? Et les athlètes qui participent aux Jeux Olympiques, ce n'est pas un jour, ils se lèvent et puis le lendemain, ils prennent l'avion pour aller aux Jeux Olympiques, que ça se passe en Brésil ou n'importe où dans le monde. Ce n'est pas du jour au lendemain où ils se disent, voilà, je vais aller et je vais gagner. Quelqu'un qui, du jour au lendemain, va aux Jeux Olympiques, il va arriver dernier. Il va échouer, n'est-ce pas? Il n'ira pas bien loin. Parce que, pour aller aux Jeux Olympiques, il faut avoir quand même un certain niveau. C'est souvent des années d'entraînement. Parfois, des gens, ils consacrent toute leur vie pour une seule occasion de participer dans tel ou tel jeu. Et parfois, ils réussissent. Et parfois, on entend parler de ces témoignages, quelqu'un qui a consacré des mois, des années, qui depuis tout jeune a voulu participer au jeu, et puis il y arrive, et puis il gagne la médaille d'or. Quelle histoire, n'est-ce pas? Ça inspire en nous quand même quelque chose. Et on est content pour la personne, on voit tout le travail qu'on met là-dedans. Et sur les sports, on apprécie plus ou moins de regarder. Il y a certains sports à pas mal d'action, on aime bien regarder. D'autres sports qui sont un peu plus lents, on se dit, parfois il ne faut pas plus d'entraînement ou autre pour tel ou tel jeu. On en parle un peu partout. Ce sont les Jeux Olympiques mondiaux, des dizaines de pays représentés. Et quand on parle de cela aussi, on parle aussi malheureusement de scandale. Vous avez entendu parler que la Russie a failli être exclue entièrement. Il y a des athlètes russes qui sont là, mais scandale parce que aux Jeux Olympiques derniers, il y a eu ce que moi je vais appeler fraude. Il y a eu des athlètes qui se droguaient. On essayait de cacher ça et tout. Toute une histoire pour montrer que le cœur de l'homme veut toujours avancer, veut toujours avoir la première place en toute chose. Mais des athlètes, c'est quelque chose. Et c'est un peu là-dessus, puisque on parle des Jeux Olympiques, on a un peu ça à l'esprit, je pense. On en parle depuis un certain temps, mais c'est là maintenant. Des athlètes, on en parle. Et comme vous le savez, la Bible parle des athlètes et compare la vie chrétienne à la vie d'un athlète. Et Paul, notamment, c'est lui qui va en parler le plus, mais le premier passage ne sera pas de Paul, le premier passage qu'on regardera, c'est dans l'Épître aux Hébreux. Alors, certains attribuent ce livre à Paul. Je ne suis pas à 100% convaincu que c'est lui qui l'ait écrit. Mais peu importe, l'auteur, ce livre se trouve dans la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 12. Et aujourd'hui, nous allons regarder quatre mots. Et chaque passage correspondra à un mot. Quatre mots dans cette vie d'athlète spirituel. Hébreux chapitre 12, et c'est simplement les deux premiers versets, des versets bien bien connus, mais il est toujours bien de les revoir. Hébreux chapitre 12, après avoir parlé de tous ces gens de foi au chapitre 11, et quel encouragement ça doit être pour nous, au chapitre 12, verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Et ce que nous voyons dans ce verset, le mot qui revenait constamment à mon esprit en voyant ce passage, ces quelques versets, c'est le mot « discipline ». Et on ne peut pas parler de jeu, de athlète, sans parler de discipline. Et lorsqu'on commence à regarder la vie de n'importe quel athlète, si l'athlète veut réussir, si l'athlète veut monter sur le podium, il faut quand même une discipline. Une discipline bien rigoureuse, une discipline à laquelle il faut se tenir, coûte que coûte. Et c'est ce que nous voyons au chapitre 12, au chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, tous ces gens qui nous ont précédés, tous ces gens qui, par la foi, ont terminé leur course, ont terminé le ministère que Dieu leur a confié, toutes ces personnes, et spécifiquement ici, l'auteur fait référence à tous les personnages du chapitre 11, c'est comme s'il dit, ils nous regardent. Ils ont les yeux sur nous pour voir si nous allons continuer, si nous allons rester dans cette discipline. Et la conséquence de ce regard de ces témoins, ici l'auteur au verset 1 continue, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » L'idée, ce n'est pas vraiment envelopper, mais c'est pierre d'achoppement, ce qui nous fait trébucher. Vous savez, quand on fait la course ou dans n'importe quel jeu où on doit courir à droite et à gauche, s'il y a quelque chose qui va faire trébucher, tout de suite, il faut l'enlever. Moi, j'ai joué parfois au hockey. Parfois, c'était sur glace. Parfois, c'était juste dans la rue. Jamais dans une vraie équipe, mais avec des amis, parfois, on jouait. Et le hockey sur glace, surtout, le moindre défaut sur la glace, ça va faire voler le joueur. Et ça peut être assez impressionnant, ça arrive parfois. Et du coup, il faut enlever même toutes ces petites choses. Et ici, rejetons tout fardeau. Imaginez-vous quelqu'un qui se prépare pour une course olympique et qui arrive avec le sac à dos bien rempli sur le dos. Mais on va dire, mais il est fou. Il est fou, il n'est pas bien. Il n'est pas là pour gagner, il est là pour se ridiculiser en fait. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Il nous faut la discipline déjà pour lire la parole, la discipline pour prier tous les jours, la discipline pour obéir aux commandements de Dieu lorsqu'on n'en a pas trop envie. Est-ce qu'on a toujours envie d'obéir à la parole de Dieu? Si moi je suis honnête, je dois dire non. Il y a des commandements qui sont durs. Parfois, j'ai vraiment pas du tout envie, j'ai envie de faire autre chose. Mais là, la discipline m'aidera à rester concentré. Et justement, l'athlète qui se prépare pour un haut niveau, il suivra un régime spécifique, n'est-ce pas? Et s'il s'écarte de cela, il ne réussira pas. Il suivra des exercices, un entraînement régulier, discipline. Et s'il s'écarte de cela, il ne doit pas espérer aller bien loin. Et ici, dans ces versets, cet auteur est en train de dire dans la vie chrétienne, il nous faut la discipline. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire quoi que ce soit. Le monde va mettre la pression pour lui ressembler. Le monde va dire, bah, il faut être comme nous. Le monde va dire, ah, ça, ce n'est pas grave, on peut se laisser aller un peu. On peut faire tel ou tel choix. Ces circonstances sont bien particulières, alors on a le droit de ne pas tout à fait dire la vérité. On a le droit de se permettre de faire telle ou telle chose. Alors que nous savons que la Bible dit, non, on ne peut pas. Et la discipline, lorsque nous y exerçons, nous permettra, par la grâce de Dieu, de pouvoir tenir. Sans la discipline, bah, nous passons à côté d'un des éléments les plus essentiels. L'athlète qui aspire à monter sur le podium et qui n'a pas de discipline peut aspirer autant qu'il veut. Il peut le vouloir, la volonté peut être là à 100%. Sans la discipline, il n'y arrivera jamais. Et dans notre vie, nous pouvons aspirer, vouloir obéir à la Bible. Nous pouvons aspirer, vouloir ressembler à Christ, et c'est déjà une bonne chose. Comprenez bien, c'est une bonne chose et chaque enfant de Dieu devrait avoir ses désirs. D'ailleurs, dans l'Épître aux Philippiens, Paul va expliquer que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir. Dieu nous donne les désirs qu'il faut. Mais s'il n'y a pas de discipline de notre côté, cette discipline, bien sûr, dirigée par Dieu, nous ne pouvons pas espérer aller bien loin. Et nous ne devrions pas être surpris qu'effectivement, nous trébuchons. Qu'il y ait ces fardeaux, qu'il y ait ces péchés qui nous emboîtent le chemin, qui nous font tomber et qui vont nous arrêter dans notre course. Parce que c'est bien d'une course dont on parle ici. On a cette image, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, c'est cette course, cette discipline, oui, dans notre propre vie. Mais regardez verset 2, ayant les regards sur Jésus. Et là, ce n'est pas juste un regard passager. Oh, j'ai aperçu vite fait. Non, c'est un regard fixé. Un regard fixé. Et en fait, c'est assez bizarre. Nous pouvons fixer beaucoup de choses. Mais si on fixe, et on va faire l'expérience ce matin, si on fixe quelqu'un dans les yeux, bah, très vite, ça devient un peu gênant, n'est-ce pas? Bah, si je prenais, je ne vais pas le faire, mais si je prenais quelqu'un dans l'assistance ce matin et je vous fixais dans les yeux, bah, très vite, on ne sait pas trop pourquoi, mais Dieu nous a fait comme ça. C'est un peu gênant, n'est-ce pas? Mais le regard fixé, c'est ce dont l'auteur parle ici. Et pas sur n'importe quoi. L'athlète qui va fixer ses regards sur le but qu'il a à atteindre, bah, là, il va se discipliner parce qu'il sait que son but, cette discipline lui permettra d'arriver à ce but. Et bien sûr, nous, avec les regards sur Jésus, qui était là au début de la foi, c'est lui qui la suscite. Et bien sûr, c'est lui qui mène à la perfection. Et puis, l'auteur continue en décrivant ce par quoi Jésus est passé. Ce n'était pas facile. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, la mort, la plus terrible qu'il pouvait avoir. Et en plus de cela, c'était injuste. Il ne méritait pas d'être là. Méprisé, l'ignominie, on se moquait de lui. On blasphémait. On lui tirait la barbe. On lui a mis la couronne d'épines. Et puis, parce qu'il avait, par la grâce de Dieu, cette discipline, parce qu'il est allé jusqu'au bout, un autre aspect qu'on verra dans un autre passage, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est allé jusqu'au bout. Il a persévéré, un élément qu'on relèvera dans un autre passage. Et à cause de cela, il a eu sa récompense. C'est-à-dire retrouver sa place auprès de son Père, cette place qu'il avait depuis toute éternité. Et ici, l'auteur encourage à la discipline. Et l'auteur sait que ce n'est pas facile. Les chrétiens auxquels il écrivait, lorsqu'on lit cet épître, apparemment ils subissaient la persécution. Et l'auteur sait que ces personnes sont en difficulté. Sait que ces chrétiens risquent de détourner les regards, risquent peut-être de retourner dans le monde, de ne pas être à la hauteur de leur engagement qu'ils avaient pris pour Dieu. Et ici, dans ce passage, l'auteur appelle à la discipline. Et lorsque nous regardons notre vie, pouvons-nous dire que notre vie est une vie de discipline pour Dieu? Nous pouvons être disciplinés dans bien des domaines, au travail, dans toutes sortes de choses, mais dans notre vie spirituelle, est-ce que nous sommes disciplinés pour que régulièrement nous sommes en train de faire ce que Dieu veut? Nous connaissons les commandements de Dieu. Je suis convaincu que la plupart, sinon tous ici, ne sont pas ignorants de ce que Dieu veut de nous. C'est pas vraiment une question de connaissance, c'est une question de la mise en pratique de la discipline qui doit être dans notre vie. Mais en plus de cela, allez avec moi dans la première épître aux Corinthiens. La première épître aux Corinthiens, chapitre 9, parce que, en plus de la discipline, nous allons voir un autre mot. Et c'est peut-être le mot le plus gênant des quatre que nous allons voir ce matin, parce que ça va être le mot sacrifice. Sacrifice. On n'aime pas trop. La première épître aux Corinthiens, chapitre 9, à partir de verset 24 jusqu'au verset 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? C'est pas comme aujourd'hui où tout le monde gagne. Non, non, non. Un seul gagnant. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Paul ici parle des sacrifices que des athlètes sont prêts à subir pour réussir. Un athlète va se priver de beaucoup de choses, à la fois au niveau des aliments, au niveau de son temps, au niveau de ses plaisirs même. L'athlète va se priver de beaucoup de choses, va faire beaucoup de sacrifices. Pourquoi ? Au verset 25, il dit « Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Une couronne, souvent à l'époque, c'était en feuilles, lierre. Et voilà, c'était joli pendant un certain temps. Et parfois, il y avait des couronnes qui étaient un peu plus durables, avec des matériaux, pas forcément d'or, mais peut-être d'autres métaux et tout. Mais tout ça, Paul va mettre dans la catégorie de corruptible. Et des athlètes qui sont aux Jeux Olympiques en ce moment, il y aura des gagnants. Il y aura des personnes qui vont remporter des médailles d'or, d'argent, de bronze. Et quelque part, tant mieux, ils ont fait des exploits. On ne peut pas leur reprocher ça si l'on fait dans les règles du jeu. Mais ces médailles, 10, 15, 20, 50 ans après, qui va s'en souvenir? Ces médailles, même si elles sont en or, quelle valeur? Et Paul dit, ces athlètes sacrifient énormément. s'impose, comme il dit, toute espèce d'abstinence, se prive de beaucoup de choses et, à la limite, se font mal eux-mêmes. Quand ils s'entraînent, ben, croyez-moi, c'est pas plaisant. Ça fait mal. Mais ils sont prêts à endurer tout cela pour un petit bout de métal. Oui, on va me dire, oui, la renommée qui va avec. On parlera d'eux pendant quelque temps. Leur nom sera dans les livres d'histoire. Un tel ou tel a remporté 2016, telle ou telle course, telle ou telle autre épreuve. Et alors, est-ce en tant que chrétien notre perspective que nous courons à droite et à gauche pour les peu de choses matérielles que nous pouvons avoir dans ce monde? Ou avons-nous plus la perspective de Paul où il dit « Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Une couronne qui ne va pas disparaître, qui ne changera jamais. Sommes-nous prêts à faire des sacrifices pour notre vie chrétienne? Sommes-nous prêts à nous imposer certaines choses pour que notre vie avec Dieu avance? Sommes-nous prêts à lâcher certaines choses qui peut-être ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ne nous aident pas à avancer? Ici, Paul dit, le chrétien doit être prêt au sacrifice. Le sacrifice de son temps. Vous savez, lire la parole de Dieu, ça prend du temps. Et c'est du temps que, si on ne fait pas attention, on pourrait justifier en disant, ce temps, je pourrais l'utiliser pour d'autres choses. Et comme ça, je pourrais être plus utile à Dieu. Prier, ça prend du temps. Et on pourrait avoir cette réflexion, mais si je prie, je n'aurai pas assez de temps pour accomplir toutes les choses que je dois faire. Et c'est une mauvaise réflexion. C'est un mauvais raisonnement. Parce que lorsque on sacrifie la prière au profit des choses que nous devons faire, nous avons tout à l'envers. Et lorsque nous sommes prêts à sacrifier du temps que, selon le raisonnement humain, on pourrait consacrer à des choses qui sont plutôt bonnes, et nous consacrons ce temps à la prière, à la méditation de la parole, ben Dieu va utiliser cela. Dieu verra ce sacrifice que nous faisons pour lui et va bénir. Oui, nous sacrifions de notre temps. Nous pouvons sacrifier de notre argent aussi. Parfois, on peut se poser la question, mais comment est-ce que je peux donner à Dieu ce mois-ci? Je ne vois pas. Je sais que Dieu veut que je le fasse, mais là, je ne vois pas du tout. Et lorsque par la foi, parce que c'est la foi qui nous permettrait de le faire, nous sacrifions pour Dieu, ne croyez pas que Dieu reste insensible à cela. Ne croyez pas que Dieu va prendre cela à la légère. Non, Dieu récompensera. Et dans notre vie, sommes-nous prêts à sacrifier pour pouvoir témoigner? Sommes-nous prêts à sacrifier pour pouvoir apporter de l'aide à un frère ou une sœur en Christ? Sommes-nous prêts à sacrifier pour aider quelqu'un d'autre à avancer? Nous n'aimons pas trop le sacrifice, nous aimons le confort. Nous voulons que tout se passe bien, nous ne voulons pas être embêtés. Et rien de mal en soi avec ça. Moi aussi, je n'aime pas trop être embêté. J'aime bien le confort. Gardez-moi dans le confort, tout va bien. Mais ce n'est pas forcément la meilleure chose. Dieu nous appelle à faire des sacrifices. Sommes-nous prêts à en faire? Des athlètes pour les Jeux Olympiques, croyez-moi, ils ont sacrifié. Ils ont sacrifié beaucoup. Ils voient très peu leur famille. Ils n'ont pas vraiment une vie sociale, comme on dit. Pas beaucoup d'amis. Ils consacrent la majorité de leur temps aux entraînements, à un régime qui n'est peut-être pas toujours agréable. mais ils sont prêts à faire ces sacrifices, encore une fois, pour un bout de métal et un peu de gloire pendant un peu de temps. Et nous alors, avec une perspective éternelle, qu'est-ce que nous sacrifions aujourd'hui pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de notre relation avec Dieu? Et les sacrifices seront différents les uns pour les autres. Ce que Dieu m'appelle à sacrifier ne sera pas le même que pour vous. Et ce que vous sacrifiez ne sera pas forcément le même que pour quelqu'un d'autre. Mais un chrétien qui n'est pas prêt à sacrifier est quelqu'un qui doit se remettre en question. Bien sûr, Dieu promet de pourvoir à nos besoins. Et Dieu veut nous faire du bien, et Dieu nous fait du bien. Mais si on n'est pas prêt à sacrifier, nous passerons à côté de ce que Dieu veut pour nous. Alors, la discipline, par la grâce de Dieu, il nous faut dans notre vie. Le sacrifice également, prêt à donner de son temps, de ses ressources, de tout ce qu'on a pour Dieu. Et puis, troisièmement, dans l'Épître aux Philippiens, l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, à partir de verset 12, juste quelques versets ici, versets 12, 13 et 14, Philippiens chapitre 3, de nouveau Paul qui s'exprime, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et le mot qui me revenait constamment à l'esprit en voyant ce passage, c'est le mot tout simplement « constance ». Le mot « constance ». Et vous voyez là au verset 14, « Je cours vers le but. Je fais une chose, oui, oubliant ce qui est en arrière, verset 13, me portant vers ce qui est en avant. Je cours, je continue. C'est la constance. Et avec la discipline, avec le sacrifice, c'est quelque chose qui doit être présent dans notre vie. Parce que par moments, et vous l'avez expérimenté tout comme moi, on peut avoir des moments où on est tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Et pendant une semaine, tous les jours, on lit sa Bible, on prie, on demande à Dieu de nous aider. Et pendant toute une semaine, et peut-être pendant deux semaines, peut-être pendant un mois, ça continue comme ça. Et gloire à Dieu! Mais après, quelque chose arrive. Un imprévu. Quelque chose arrive dans notre vie, et puis nous manquons un jour. Et puis le lendemain, on se rattrape, mais quelques jours plus tard, de nouveau, on rate un jour, et cette fois-ci, c'est deux. Et petit à petit, nous passons un peu moins de temps dans la parole, nous passons un peu moins de temps dans la prière. Et puis, ce zèle, ce désir s'estompe petit à petit. Et nous manquons de constance. Régulièrement, être en train de faire ce que Dieu veut. Et ici, Paul dit, « Je ne suis pas arrivé. » Je ne suis pas encore là, mais je continue de me porter vers cela. Verset 12, je cours pour tâcher de le saisir, ce but, ce prix. Je cours, je continue. Et toute la vie de Paul était bien sûr en avant. Il était toujours en train d'accomplir ce que Dieu demandait de lui. Il était toujours en train d'être à l'œuvre pour Dieu. Il y avait une constance dans sa vie. Et lorsque nous pensons de nouveau à cette image des athlètes, s'il n'y a pas une constance chez eux, bah, ils ne vont pas pouvoir réussir. S'ils s'entraînent dur comme du fer pendant une semaine, et puis la deuxième semaine, bah, ils ne font rien. Et puis de nouveau une semaine où ils sont à fond dans tout, et puis de nouveau une semaine où ils ne font rien, bah, croyez-vous que ça va marcher ? Non. Un entraînement régulier, constant, leur permettra d'aller jusqu'au bout. Et dans la vie chrétienne, il nous faut la constance. Mais comme vous le savez, dans notre vie, il y a tellement d'obstacles qui se dressent contre cette constance que Dieu veut voir en nous. Trop souvent, nous sommes arrêtés dans cette course par le péché, par le monde, par des tentations, par différentes choses qui surviennent dans notre vie. Et nous nous laissons arrêter par ces choses, au lieu de, par la grâce de Dieu, les surmonter et de continuer. Et ici, Paul dit, il y a les choses en arrière. Peut-être que je n'ai pas toujours fait comme il fallait, et ça c'est vrai. Mais bon, j'oublie tout cela, je ne me laisse pas obsédé et travailler par ça, oubliant ce qui est en arrière, c'est du passé, Dieu pardonne. Ce qui est important, c'est de se porter en avant, comme il dit. Mon désir n'est pas d'avoir les yeux dans le passé, en arrière. Quelqu'un qui court et qui toujours regarde derrière lui, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va rentrer dans un poteau. Et croyez-moi, ça fait mal, il faut avoir fait l'expérience. Je ne courais pas, mais je marchais, je discutais avec quelqu'un. Et puis, je ne faisais pas attention. On était dans la rue. Et puis, on discutait, on était à fond dans notre conversation. Et puis, à la dernière seconde, je me retourne et je suis face à un poteau. Ça fait mal, croyez-moi. Mais quand on a les yeux en arrière, on n'avance pas. Et Dieu veut qu'on avance. Bien sûr, il faut apprendre des erreurs qu'on a faites dans le passé. Bien sûr, il faut tirer des leçons du passé. Mais notre regard principal doit être en avant. En avant. Et à la fin du verset 12, Paul, il explique quelque chose de très très important. Il dit, je cours pour tâcher de le saisir, c'est-à-dire ce prix. Pourquoi ? Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Paul, il est totalement convaincu que Dieu a opéré cette transformation dans sa vie et qu'il ne peut plus vivre pour lui-même, mais qu'il a l'obligation de vivre pour Dieu. Et vivre pour Dieu veut dire avancer. Et Paul avait cette constance. Et verset 14, « Je cours vers le but » tout comme dans la première épître aux Corinthiens, il ne faisait pas n'importe quoi. Il ne courait pas dans tous les sens, une fois à droite, une fois à gauche. Non, non, c'était bien ciblé. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et puis, bien sûr, verset 15, nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, des hommes mature, et là ça s'étend à chaque enfant de Dieu, homme, femme, ayons cette même pensée. Bien sûr, le chapitre précédent, il va dire d'avoir des sentiments, des pensées de Jésus-Christ, mais ici, nous devons avoir cette même pensée de constance, continuellement, sans s'arrêter, continuer le travail que Dieu nous a donné d'accomplir. Trop souvent, nous nous laissons arrêter. Trop souvent, nous disons, bah, c'est trop dur. Trop souvent, nous disons, je ne peux pas. Bah, quelques versets plus loin, je puis tout par celui qui me fortifie, va dire Paul. C'est dans cette même épître, je puis tout. Alors, pour nous, la constance est possible. Nous pouvons continuer. Rien n'est trop difficile, rien n'est trop complexe. Cela ne veut pas dire que du jour au lendemain, ça va changer. Non, peut-être il faudra du temps. Mais avec le Seigneur, nous pouvons tout faire. Alors, ne nous laissons plus arrêter. Qu'il y ait cette constance en nous. Alors, discipline, sacrifice, constance. Et finalement, dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, Paul sait que sa vie approche de sa fin. La deuxième épître à Timothée, chapitre 4, c'est déjà au moins son deuxième emprisonnement, bien possible que ce soit le troisième. Déjà verset 6, il écrit à son ami, son compagnon d'œuvre, Timothée, chapitre 4, verset 6, « Car pour moi, je sers déjà de libation, ou littéralement de sacrifice, et le moment de mon départ approche. » Son départ, c'est-à-dire pour aller rejoindre le Seigneur. Il sait que bientôt il va mourir. Et verset 7, c'est quelques mots, « J'ai combattu le bon combat. » Ce n'était pas facile pour Paul. Il reconnaît que c'était un combat, mais il parle d'un bon combat. Ce n'est pas n'importe quel combat, mais le bon combat, le combat que Dieu lui avait donné. J'ai achevé la course. Encore une fois, pas n'importe quelle course, pas à droite et à gauche, dans mille et une directions, mais la course que Dieu lui a donnée. J'ai gardé la foi. Il n'a pas renoncé. Il était menacé à maintes reprises, mais il a gardé la foi. Et le mot auquel je pensais ici, c'est la persévérance. Jusqu'au bout, Paul, ici, il est à la fin de sa vie. En Philippiens, il avait encore du temps devant lui. Il courait. Il était dans cette course et il voulait continuer de courir. Mais ici, il est à la fin de sa course. Et il peut dire, j'ai persévéré. Je suis allé jusqu'au bout. Ce n'est plus, je combattrai. Mais j'ai combattu. J'achèverai un jour. Non, mais j'ai achevé. C'est pas je vais garder de manière tenace pour que personne ne me l'arrache cette foi. Non, c'est j'ai gardé la foi. Paul sait qu'il a accompli le travail que Dieu lui a donné. Et il sait, il a cette conscience tranquille devant Dieu, devant les hommes. Et il dit, par la grâce de Dieu, j'ai fait ces choses, j'ai persévéré, je suis allé jusqu'au bout. Et la persévérance est quelque chose dont nous avons besoin. Pour aller jusqu'au bout, c'est tellement plus facile de s'arrêter en cours de route. Ça, c'est la facilité. Comme la plupart savent, je me suis mis un peu au footing. Et je peux dire que je vois ces aspects-là. La discipline, oui. Sacrifice, oui, ça prend du temps pour sortir. Quand on prend une demi-heure, une heure, on peut être en train de faire autre chose. Constance, j'essaie de le faire au moins trois fois par semaine. Jusqu'à présent, c'est assez aléatoire, je vous le dis, honnêtement. Et puis la persévérance... Je me dis, je vais courir aujourd'hui telle ou telle distance. Et puis j'arrive vers la fin et j'ai les jambes un peu en feu, j'ai les poumons qui travaillent dur, le cœur qui bat. Et je me dis, mais il faut que j'aille jusque-là ? Ah mais non, je vais m'arrêter là. Non mais j'étais trop optimiste, je ne pourrais pas. Et c'est là où il faut se ressaisir un peu. Mais non, on s'est fixé tel objectif, on va aller jusqu'au bout. Et entre nous, parfois, ça fait vraiment du bien de courir le long de la Seine parce qu'il y a des gens qui te regardent. Et tu ne veux pas avoir l'air ridicule en t'arrêtant en plein course, donc tu fais le forcing un peu. Bon, si jamais ça peut vous aider, si jamais vous faites ça. Mais la persévérance, aller jusqu'au bout. Et parfois, quand c'est dur, on a vraiment cette envie de s'arrêter. Et parfois, on s'arrête. Mais Dieu veut que nous allions jusqu'au bout. Dieu nous a appelés à un ministère qui durera toute notre vie. Et Paul, ici, à la fin de sa vie, pouvait regarder en arrière et dire, oui, je suis arrivé maintenant à la fin et j'ai persévéré. Et jusqu'à présent, pouvez-vous dire, ben, j'ai persévéré. Il y avait cette discipline dans ma vie. J'ai dû faire des sacrifices, mais qui en réalité ne l'étaient pas parce que je les faisais pour le Seigneur. J'étais constant par la grâce de Dieu et j'ai persévéré jusqu'aujourd'hui. La réalité, c'est que par moments, nous sommes tous confrontés à ce sentiment de vouloir baisser les bras. C'est un sentiment qui est commun à tous. Et il ne faut pas se culpabiliser, il ne faut pas se mettre dans tous ces états si on a le sentiment de vouloir baisser les bras. Ça arrive à tout le monde. L'important, c'est ce que nous faisons face à cela. Le désir de baisser les bras, le désir parce qu'on dit bah, « c'est trop dur ». Là, j'ai déjà supporté tellement de choses. Je ne peux pas persévérer. Ce n'est pas possible. Je n'y arrive pas. Sans la grâce de Dieu, on n'y arrivera jamais. Mais on a ce sentiment. Et qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Est-ce que nous allons effectivement baisser les bras? Est-ce que nous allons dire, ben, c'est pas la peine? C'est trop dur? Ou est-ce que nous allons en dire, parce que Jésus a déjà accompli ceci avant moi? Parce qu'il y a tellement d'hommes et de femmes de foi qui ont persévéré pour me donner l'exemple. Puisque j'ai le Saint-Esprit, j'ai Dieu en moi qui me rend capable de le faire, ben, je vais prendre la décision d'aller jusqu'au bout. Ce ne sera pas facile. Jésus n'a jamais promis que notre vie avec lui serait facile. Par contre, tout comme Paul avait compris, la récompense, lorsque nous arrivons à la lignée d'arrivée, et que nous pourrons entendre « Bien, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, tu as bien fait, tu es allé jusqu'au bout, tu as persévéré, comme Paul, tu as combattu le bon combat, tu as achevé ta course, tu as gardé la foi. » De pouvoir entendre ces mots de la part de Dieu, d'avoir cette perspective, de garder en tête la lignée d'arrivée. Oui, c'est dur sur le moment, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons tenir. Peut-être le cœur va battre dur comme pas possible. Peut-être les jambes seront en feu, peut-être les bras, on a l'impression qu'ils vont tomber. Mais Dieu ne permettra pas. Et lorsque nous regardons vers lui, nous pouvons tout supporter. Et au lieu d'un petit bout de métal et un peu de gloire pendant quelques instants, nous aurons cette couronne incorruptible, avec une gloire que nous allons pouvoir apporter à Dieu pendant toute l'éternité. À votre avis, lequel devrions-nous désirer? Lorsqu'on le met dans ces termes, c'est assez évident. Mais au jour le jour, quand vous avez quelqu'un qui vous embête, quand vous avez un péché devant lequel vous succombez tellement de fois, lorsqu'il y a des épreuves dans la vie, c'est là où on ne raisonne pas tout à fait comme il faut. Et c'est là, dans ces moments-là, que nous avons besoin de ces rappels. Que nous devons nous comporter comme l'athlète spirituel. Alors, de nous poser la question, est-ce que nous allons nous engager pour les choses de la vie? Pour des jeux humains? Ou est-ce que nous allons nous engager comme l'athlète de Dieu qui va tout faire par la grâce de Dieu, qui aura la discipline, qui fera des sacrifices, qui aura la constance et qui persévérera jusqu'à la fin. Quel athlète serons-nous? Ben, nous le verrons plus tard. Par la grâce de Dieu, que nous puissions tous prendre la décision aujourd'hui d'être cet athlète spirituel, cet athlète de Dieu qui lui apportera toute la gloire qu'il mérite. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous savons que rien n'est caché à tes yeux. Tu vois notre cœur, tu vois notre situation spécifique à chacun. Tu vois ce par quoi nous passons, tu vois ce dont nous avons besoin. Et Seigneur, que tu changes notre raisonnement, que tu animes en nous le désir d'être cet athlète décrit dans ta parole. Seigneur, fortifie-nous. Nous sommes faibles, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Et par ton Saint-Esprit, que tu puisses opérer en nous ce dont toi seul tu es capable. Tu produis en nous le vouloir et le faire, donne-nous les sentiments que toi tu avais. Anime-nous de ta force, Seigneur, et que nous puissions prendre cette décision aujourd'hui, que nous puissions le renouveler chaque jour, et que nous soyons tes enfants dont tu es fier, qui te sont agréables, et que toute la gloire te revienne pour cela. C'est en ton nom que nous prions. Amen.